One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen. Et ce soir dans Ping Pong, un poète numérique, un musicien alchimiste et gyrovague, un chef d'orchestre digital et un peintre qui lutte à main nue avec l'ange et la bête de la génération Internet.
Ping Pong,
la culture sans limite.
La culture sans limite.
Ce soir, le récit moderne de France Culture se poursuit. Une journée dans nos vies numériques. L'idée, ce n'est pas de casser l'Internet, selon la formule consacrée, mais de savoir ce qu'il nous fait. À l'heure du ping-pong et de l'apéro, on s'interroge non pas sur l'art numérique, au fond pas plus signifiant que l'art Minitel ou l'art téléphonique, mais sur les changements qu'apporte cette boîte à outils à la création contemporaine. Avec un peintre classique qui saisit le non-événement de nos vies connectées et notre reflet dans les écrans, Thomas Lévillan. Avec un artiste 3D de la Galerie Perrotin et explorateur musical 2.0 du site Radio avec 5 O, Benjamin Moreau, avec un spécialiste de la forme brève et expérimentateur poétique en ligne, Stéphane Bataillon, et avec un musicien branché sur secteur, General Electrics alias Hervé Salters, qui sort aujourd'hui un nouvel album, To Be a Stranger.
Martin Kénéen, Mathilde Serrel.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Lui a toujours rêvé de machines à remonter le temps. En lieu et place d'une DeLorean de Retour vers le futur, c'est un site internet puis une application qu'il a imaginée et financée grâce à son galeriste Emmanuel Perrotin. Radio, avec 5 O comme les 5 continents, permet de se déplacer dans le temps et dans l'espace à travers 100 ans de musique et dans le monde entier. On l'avait vu ? Détourner le moteur 3D d'un jeu vidéo pour créer des doubles virtuels des collectionneurs et de leurs œuvres. Ou encore gonfler un gros chalet suisse à Miami Art Basel. Cette fois, c'est le relief musical qu'il recherche, en archéologue mélomane, aux airs chaplinesques, exhumant des pépites inouïes, aidé d'un labo d'oreilles avisées et de propositions collaboratives. L'application est lancée, la tournée mondiale IRL In Real Life est annoncée. Benjamin Moreau, co-directeur artistique de Radio, est avec nous ce soir. Bonsoir.
Salut.
Autant des selfies, d'Instagram, de YouTube, YouPorn, des gifs et des émoticônes, lui peint. Oui, avec des pinceaux et de la boue vivante, comme il dit. Et il s'adonne même à la peinture figurative, mais n'allez pas croire qu'il est vieux jeu, parce que lui joue un jeu sans âge. Et puis parce que ce trentenaire est plus connecté que vous. Non seulement parce qu'il surfe, ou skie, ou musarde chaque jour avec au pied les chaussures de Van Gogh sur le vaste réseau interconnecté. Non seulement parce qu'il représente volontiers des smartphones, des webcams et des ordinateurs dans ses fêtes, des petites aquarelles au regard alcoolique et enfiévré, dans ses fusains porno, moites et chauds, et dans ses grands paysages à la fois sereins et tourmentés. Et surtout parce qu'il connaît et maîtrise les secrets et le pouvoir des images, alors que nous sommes les esclaves des seules et villes instantanées. Et puis vous pourrez l'aller voir, puisque la peinture exige qu'on la regarde en face et pas par écran interposé, en mars, dans l'exposition Drawing After Digital au XPO Art Studio à Paris. Bonsoir Thomas Lévillan.
Bonsoir.
Alors Benjamin Moreau, vous avez, je le rappelais dans cette présentation, eu ce projet colcause.org. Vous détourniez effectivement un logiciel de jeux vidéo. Vous aviez créé donc des avatars en 3D du collectionneur Emmanuel Perrotin, entre autres, des œuvres aussi. On voit même version 3D jeux vidéo vos films de vacances. C'est toujours disponible sur YouTube, les internets, si vous voulez aller voir. Et vous disiez à l'époque que vous vendiez ainsi de l'existence. Au fond, l'écriture numérique, et ça se continue avec le site Radio, elle est au cœur de votre travail, mais pas, on va dire, dans un virtuel qui nous sépare, mais dans un virtuel qui nous rapproche. Est-ce que quelque part, ça vous sert à intensifier le réel, comme le dit Thomas Lévillan de son travail ?
Alors, je ne sais pas si ça nous sert à intensifier le réel, mais en tout cas, ça permet d'explorer le réel et le monde dans toute sa richesse inconnue.
Mais comment vous utilisez justement le numérique ? C'est-à-dire que finalement, vous vous êtes dit que tout était à disposition et vous avez utilisé tout ce qu'il y avait d'applications, de rapports justement entre l'espace, le temps et cet homme connecté qui a un smartphone désormais, qui est quand même un peu prolongement de lui-même, qui du coup devient différent et à qui on peut proposer de nouvelles choses.
Ouais, alors sur Internet, on trouve de la musique, mais par contre, elle est très difficile d'accès finalement. Il faut aller la chercher, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a monté ce site qui permet d'y accéder plus rapidement, plus facilement, presque en jour.
Ouais, c'est la gamification musicale.
Thomas Lévillane, vous, votre écriture n'est pas numérique, puisque face au virtuel de notre époque, que Nietzsche, que vous aimez citer, dirait froide et même gelée, vous répondez avec passion en usant d'une matière vivante, la peinture. C'est que dans la peinture, il y a, dites-vous, du corps en jeu, une livre de chair et de boue et pas de pixels. Mais alors, quel dessin esthétique et peut-être politique poursuivez-vous en peignant à la fois des fêtards brandissant des smartphones ou bien des vacanciers rivés à leur écran alors que résonne autour d'eux l'appel de la forêt ?
Je pense que c'est une question qui s'est toujours jouée dans la question humaine. C'est en fait la question du bovarisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a dans sa poche un ailleurs ? Comment on s'attaque au réel, comment on vit dans la réalité, en sachant qu'on peut toujours trouver mieux ailleurs, c'est-à-dire dans son smartphone, dans les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Et moi, c'est une question que je me pose quotidiennement, c'est comment être là, présent au monde, et pas forcément vivre la réalité, et pas forcément me planquer derrière mes cachettes que serait un ordinateur, derrière un écran ou dans un smartphone, quoi. Et en même temps, c'est un bon sujet de peinture parce que, par exemple, au XIXe siècle, hein, Fantin Latour peignait des femmes en train de lire ou Chardin peignait des enfants en train de jouer. Et c'est toujours cette même question, c'est la question de l'absorption, c'est-à-dire peindre quelqu'un qui est absorbé à quelque chose d'autre que le monde et le peindre le mieux possible, quoi. Voilà.
Ah, Françoise, what joy to finally hit the road on vacation with you.
Oh yes, it's wonderful, Jean-Pierre. But tell me, where are we going?
So, first I'd like to go to India in the 80s. Oh, and then Italy in the 60s. Ah yes, and also France in the 1950s.
Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances.
Oh, but Jean-Pierre, it's impossible.
100 ans de voyage dans la musique du monde entier, c'est possible sur le site et l'application radio avec 5 ou comme les 5 continents. On va partir, nous, en Suède dans les années 50.
Puerto Rico. Men vad gör de, vad det är när det låter så hemligt. Rappam-pam-pam-pam. Nästan som om låten kom ifrån Kalix eller Mora eller rinta från Skanör. Och inte alls bort ifrån det fjärran Puerto Rico. Turiam, turiam, turirarurarura. Som ingen hör om man inte vet det att den slager, de tas jämt ur samma lager. Ram-pam-pam-pam-pam. Tierp och flin låter det så bra som Puerto Rico. 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 Pom-pom-pam, pom-pom-pam. Tiri-ri-ri-ri. Ram-pam, pom-pom-pam, pom-pom-pam. Tiri-ri-ri-ri.
Découvrir Alice Babs, Porto Rico, suédoise de 1959. Benjamin Moreau, un mot sur ce titre, comment vous l'avez trouvé ?
Alors on l'a trouvé, je me souviens plus comment on l'a trouvé, mais par contre on peut dire que Lil Babs est une personnalité très connue en Suède. C'est un peu la France Gall locale, alors qu'on ne connaît pas du tout en France. Et c'est dommage parce que c'est un petit bonbon parfait.
Alors aujourd'hui, Google, on le rappelait en préparant cette émission, Martin, en discutant, se disait c'est numéro un des plateformes d'écoute. Il y a une duplication de web radio, le Jam Radio, Radio Me, qui est programmé par Laurent Gardier. Et c'est vrai que la différence avec votre site et votre application radio, c'est qu'on a l'impression que vous aviez pioché dans tous les paramètres possibles du numérique. C'est-à-dire d'exploiter l'espace, le temps, le lieu, l'époque finalement. C'est un peu un site internet qui fonctionne comme une équation numérique.
En fait, avec Olco, on était un peu dans la 3 dimensions. Avec Radio, on a voulu sauter dans la 4e dimension, avec ce temps qu'on peut parcourir. Et en fait, toute l'imagerie du site, elle est fabriquée en deux dimensions. Elle, par contre, on est revenu à quelque chose de très...
très analogique.
Ouais, voilà, très direct. C'est du papier découpé, image par image. Et tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de musique chez Radio, un millier de titres environ par semaine en ce moment, qu'on filtre, tout est filtré par des oreilles, par des gens qui s'engueulent pour choisir tous ces morceaux.
Mais quand je disais une équation numérique, c'est parce qu'il y a des paramètres. Donc, on peut choisir donc sa destination, son époque, mais aussi son état. Il y a des moods qui vous invitent à la bizarrerie, d'autres à la fête, d'autres à la lenteur, voire à la torpeur. Moi, j'ai voulu aller en Ukraine dans les années 80 sur le mode fête. Je suis tombée sur Stassa Namina, Stouchat Kolesa. C'était un vrai plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous essayez avec l'application d'aller un petit peu plus loin que finalement l'écoute assez passive d'une radio qui est juste sur Internet.
On voulait garder le format radio avec cette histoire de flux qui est vraiment un espèce de luxe aujourd'hui à l'heure d'Internet justement où on est tout le temps en train de chercher, de zapper. On ne peut pas zapper vraiment sur radio, hein, on se laisse entraîner. Et donc on a voulu garder ce côté-là, oui, un peu humain. Et...
Thomas Lévillan, le côté un peu humain vous travaille, vous le peintre, parce que vous passez une grande partie de votre temps dans votre atelier. Vous passez aussi du temps, on le disait tout à l'heure, dans des fêtes, avec, je pense, peut-être le smartphone à la main pour attraper des images. Vous êtes aimanté, dites-vous, par la recherche d'un art de vivre comme les hommes du XIIe siècle. À quoi ça ressemble, votre art de vivre au XXIe siècle et votre art de peindre, de la peinture figurative, vous qui êtes à la fois fort d'une riche, très riche culture classique et qui êtes en même temps fasciné, un arpenteur d'Internet.
Alors, comme au XIIe siècle, je ne sais pas, parce que je ne vois pas du tout à quoi correspond le XIIe siècle, ce serait plus au XVIIe siècle peut-être.
Alors, on a oublié un moment V dans une de vos interviews.
C'est le moment où...
Moi, j'aime bien l'art de vivre du XIIe siècle. Hein.
Le XVIIe siècle, c'est le moment où on...
L'amour courtois, c'était à ce moment-là, moi ça me plaît. Ouais, hein.
Exactement.
Alors, XVIIe, c'est un peu plus glacial, parce que c'est le moment où on arrête de croire en Dieu, on doute beaucoup, donc c'est Pascal et tout ça. Et on n'a pas encore inventé l'idée de nature, c'est-à-dire l'idée d'un grand ordre. Et donc, ce moment de doute, comme ça, comme par hasard, ça amène les meilleurs, pour moi, les meilleurs peintres. C'est pour ça qu'on appelait ça le siècle d'or. Donc, c'est Velázquez, Rembrandt, Vermeer et tutti quanti. Et oui, c'est, justement, c'est ce rapport au réel qui m'intéresse là-dedans, quoi. C'est-à-dire, comment, au lieu de trouver une philosophie qui serait un peu métaphysique et tout ça, trouver juste une manière d'avoir un art de vivre, une façon concrète et tragique de sentir l'existence. Et voilà, donc, moi, j'aime bien avoir des images un peu mélancoliques, avoir un rapport à la mort, d'avoir un rapport, par exemple, la technologie, c'est beaucoup de la mode, quoi. C'est-à-dire que ça va passer très, très vite. Si je vous dis Alta Vista, on sait plus trop ce que c'est. Alta Vista, en 95, c'était le Google de l'époque, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les invariants qu'il peut y avoir dans les rapports à la technologie, plus que la technologie elle-même, quoi.
Mais si on se glisse dans votre peau, que vous qualifiez volontiers de peau d'ours, à quoi ça ressemble, votre quotidien? Votre ami, l'écrivain Aurélien Bélanger, a pu écrire que vous étiez un expert, S-POM majuscule 3.
Oui, alors ça, c'est... mon quotidien, c'est clairement d'être tout seul, donc de peindre et tout ça. Évidemment, mon rapport aux autres résultats passe par la technologie, c'est-à-dire que je dois dire que j'ai plus de contacts par Facebook, par Twitter et tout ça que par la réalité.
Vous êtes un no-life, hein.
Je suis un peu no-life, ouais. Mais en même temps, bon, c'est un choix, hein. Et sur l'histoire de pommes majuscule 3, c'est parce que j'utilise, il m'arrive de faire une série qui s'appelle Webcam, qui est donc une série plutôt pornographique, où je fais des captures d'écran à partir d'un site qui s'appelle Cam4, où c'est des gens qui font l'amour en direct sur Internet. Donc ça m'arrive quelquefois quand je travaille, quand je dessine et des choses comme ça, de mettre Cam4 en flux, justement comme une radio. Et donc des gens font l'amour à côté de moi en flux.
Dans votre atelier.
Dans mon atelier, enfin sur mon écran. Et après, moi, mon petit jeu, c'est d'arriver à trouver le bon moment, c'est-à-dire la belle forme, c'est vraiment faire une photographie, parce que c'est pas de la vidéo, c'est, je vais pas récupérer
l'instant décisif, comme disait
Cartier-Bresson. C'est l'instant décisif qui peut être un peu excitant, où d'un coup je vais faire pas majuscule 3 et hop, avoir la belle position, la belle posture, et après en faire un dessin un peu classique, de nu, très simple, quoi. Voilà.
Alors, je sais pas quel usage vous faites de Cam4, Benjamin Moreau. Mais en tout cas, je sais que dans une interview, vous disiez que le net, pour vous, c'était un espace de liberté et radio presque plus grand que l'art contemporain et ses codes. Quels usages vous faites de ce grand atelier qui est le web ?
Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, radio, c'est un grand atelier aussi. C'est un peu des artistes qui composent toute l'équipe de radio. Elle est composée, notre radio, autour d'un atelier de découpage, de dessin, d'écoute, c'est un grand bazar où on échange des choses, on capte des morceaux de réalité enfouis ailleurs. Comment expliquer ça?
Mais en quoi c'est plus vaste que le travail codifié que vous pouviez rencontrer dans l'art contemporain ?
Ah ouais, bah disons qu'avec Radio, l'idée c'était quand même de s'échapper. J'avais l'impression à un moment donné d'être dans un système un peu codé qui est celui de l'art contemporain. Et monter une entreprise, finalement, ça a été pour moi une forme de liberté complètement étrange.
Sortir de la fameuse boîte blanche.
Ouais, ouais. Et ça m'amuse beaucoup, même les aspects les plus terribles d'une entreprise, ça m'amuse beaucoup humainement. C'est une aventure qui est très excitante.
Si dans la pornographie ambiante s'est perdu l'illusion du désir, dans l'art contemporain s'est perdu le désir de l'illusion. Nous sommes passés dans le transsexuel, au sens d'une transparence du sexe, dans des signes et des images qui en effacent tout le secret et toute l'ambiguïté. Transsexuel, au sens où ça n'a plus rien à voir avec l'illusion du désir, mais avec l'hyperréalité de l'image. Jean Baudrillard, Le complot de l'art.
Alors Thomas Lévillane, vous vous frottez à ce que Baudrillard appelle la transparence des images, l'insignifiance de l'art d'aujourd'hui, à cette hyper-réalité des images, puisque vous le disiez, vous frottez notamment à toutes ces images crues du porno, et singulièrement du porno amateur, donc sur les sites de Camfort que vous évoquiez, et puis au fusain, vous mettez en relief non seulement les belles postures, les corps, mais aussi des détails de la vie quotidienne dans cette série webcam. Il y a un poster Harry Potter au deuxième plan, il y a la trame d'un barésie sur laquelle vous travaillez, mais au-delà peut-être des détails graphiques et socio-historiques qu'on peut trouver dans votre série webcam, qu'est-ce qui dans la pornographie sur internet convoque et inspire le peintre que vous êtes ?
Alors moi j'aime bien les endroits où on ne regarde pas, donc par exemple j'aime bien peindre des hôpitaux, j'aime bien peindre des animaux de ferme tout bêtes. Enfin, j'aime bien l'idée d'aller voir là où généralement les médias ou les autres médiums n'y vont pas, quoi. Et c'est vrai que la pornographie, je trouve qu'elle est pas du tout prise en compte par le cinéma, par
elle est pas regardée. Voilà.
Elle est pas et notamment pas la pornographie, mais la sexualité. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de trouver avec mes webcams, c'est justement de passer d'une pornographie vraiment brutale avec ses conventions et ses systèmes répétitifs et tout ça, à la vraie sensualité, le vrai érotisme, qui est un érotisme concret, inventif et passionnant, je trouve, qui sont justement l'amateur, les gens qui font l'amour comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans le dessin après, c'est de ramener une forme de tendresse, une forme de rapport affectif entre les gens, de montrer dans leur intimité des objets qui traînent, un petit chat qui se balade, un petit truc de la vie réelle, un petit effet de réel comme ça, qui fait que d'un coup, c'est beaucoup plus tendre et beaucoup plus doux qu'une pornographie qui, moi, pour le coup, m'excite pas trop, en fait.
Mais en quoi la main, celle du dessinateur, du peintre, peut dévoiler justement ces images qui sont codifiées, qui sont derrière les dispositifs de mise en scène, qui nous éloignent, en fait, de cette réalité ?
Ben ça, je pense que c'est une chose un peu inconsciente. Enfin, c'est une chose que je questionne en le faisant. Mais je pense que oui, la main, mon corps, mon âme, ce que j'ai vécu avant et tout ça, passe dans la manière dont je dessine, quoi. Par exemple, un photographe, quand il prend une photo, un photographe prend une photo de galet,
Mathieu, hein.
Ah oui, d'accord. Il y a pas un passage. Il se passe pas grand chose entre sa photo et lui. Voilà. Moi, si je dessine des galets, je vais les dessiner tous les uns après les autres et tout ça. J'ai un vrai rapport concret au galet, quoi. J'ai un vrai rapport sentimental au galet et tout ça. Et donc le corps, c'est pareil. Quand je dessine un corps, ça peut même être avec dégoût. Ça m'amuse, par exemple, de peindre des choses qui me dégoûtent dans ces webcams. Mais d'un coup, il se passe quelque chose. Enfin, à mon avis, enfin, j'espère. Il y a une petite émotion qui se passe, une petite tonalité affective qui se passe dans le dessin. Par exemple, quand je dessine une amoureuse, c'est 10 fois mieux que si je dessine un inconnu, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça.
Alors, c'est 10 fois mieux d'aller d'aller dans les méandres du net, se perdre en étant un petit peu guidé d'un ami. C'est un petit peu ça, l'application radio. Pour moi, c'est un ami qui vous guide dans les méandres du net, mais aussi qui vous offre une réponse à cette vie algorithmée que peut être la vie culturelle sur Internet, c'est-à-dire un système de préférence engendré par ce que vous aimiez déjà. Est-ce que c'est ça que vous recherchez dans cette application et ce site radio Benjamin Moreau, garanti sans algorithme, c'est de nous aider à nous surprendre nous-mêmes?
Tout à fait. Je pense que nous, on s'adresse avant tout à... On est d'une nature curieuse, en tout cas chez Radio, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi curieux, qui ont envie d'ouvrir leurs oreilles. Et puis, on a une maxime chez Radio, c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et on est ravis tous les matins quand on ouvre nos back-office de voir que tous ces gens envoient de la musique et nous envoient tout ce qu'ils connaissent de meilleur, qu'ils ont envie d'échanger, de partager.
Puisqu'il y a des collaborateurs hein, qu'on voit, on voit leur visage s'afficher. Mais il y a dans cette sélection et dans ce mode bizarre, ou weird, hein, comme il s'appelle sur le site radio, je trouve cette volonté justement de nous ouvrir les oreilles à autre chose qu'un formatage qui se ferait peut-être presque à notre insu dans nos navigations sur iTunes ou autres sites à algorithmes. Est-ce que c'est ça aussi que vous essayez de défaire d'une certaine manière ?
Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas, dans la radio telle qu'on peut l'entendre en FM, je ne parle pas de France, Radio France, qui est ma radio préférée d'ailleurs.
Après, oh, c'est pour ça qu'on vous a invité, on a fait une enquête.
Il l'a dit en vrai avant.
Dans votre moteur de recherche.
On n'a pas de contingence, pour l'instant en tout cas économique, on n'est pas obligé de passer. On se voit un peu comme des explorateurs, on va chercher les choses là où, et on prend celles qui nous plaisent, on les ramène à la surface et... on est dans cette situation d'explorateur et de découvreur de perles oubliées.
Et vous parliez des découvertes heureuses qui apparaissent dans votre back-office au petit matin, par exemple, dernièrement. Qu'est-ce qui a pu vous sauter à la figure, aux oreilles?
C'est tous les jours. Hein. On a eu beaucoup de problèmes à trouver de la musique coréenne. On ne trouvait pas. Alors ça, passer la K-pop et toute cette horreur.
De Corée du Nord, vous voulez dire?
Alors Corée du Nord, bon, oui, on a aussi trouvé des choses. Mais en Corée du Sud, on n'y arrivait pas. Ça faisait un an et demi qu'on cherchait, qu'on ne trouvait pas. Et un jour, on est tombé sur une petite piste et on a déroulé ça comme une pelote de laine. La disco coréenne, qui a un monde à part incroyable.
Alors, de la disco coréenne, il y en a peut-être dans les oreilles des fêtards que vous peignez à l'aquarelle, sur ces formats 15x20 qui vous sont chers, puisque c'est une très grande série que vous poursuivez, Thomas Lévillan. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des échos, que ce soit dans ces fêtes ou dans d'autres de vos tableaux. Il y a votre fameux Laetitia au lit, cette jeune femme alanguie, nue, devant son ordinateur, connectée à Facebook. On a pu comparer certaines de ses œuvres. Vous évoquiez Fantin Latour et Chardin, mais là, pour Laetitia, j'ai lu qu'on pouvait parler de la Vénus au miroir de Velázquez. Vous parlez de Dürer et de sa mélancolie. On pourrait imaginer que son ange mélancolique ait un smartphone, en effet, ou une tablette dans le tableau. Pour vous, certes, il y a des échos, mais quelle différence, quelle singularité il y a aujourd'hui dans vos vanités, dans les œuvres que vous choisissez de représenter, de nous représenter au miroir de ces objets connectés?
Bah, s'il y avait une singularité, ça serait celle de mon époque, c'est-à-dire que j'essaie de peindre ce que c'est qu'aujourd'hui, quoi.
Et c'est encore plus froid, encore plus gelé que quand Nietzsche dénonçait la société du 19e.
Je crois pas que ça soit gelé, c'est juste. Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la peinture, encore une fois, je fais un jeu qui a 700 ans, c'est un jeu de tous les temps. Donc, d'un coup, je me retrouve dans une situation où je peux pas m'amuser à être trop à la mode. Parce que si je fais un truc,
ça remonte même aux grottes.
Si je fais un petit coup comme ça, ça m'intéresse pas trop. Parce que si j'ai passé un mois à faire un petit coup, c'est un peu débile. Ça va durer. Donc, moi, j'essaie de me mettre dans le temps long, quoi. Et ce qui m'intéresse dans ce temps long, à ce moment-là, c'est l'invariant. C'est-à-dire que, par exemple, un tableau, un portrait de même ligne de 1400, moi, je trouve ça super touchant parce que il ressemble à mon voisin, quoi. C'est-à-dire que c'est un visage humain, c'est quelque chose qui n'a pas bougé, quoi. Le fait de s'absorber dans un jeu et de fuir la réalité, ça a toujours été le cas. Le fait d'être plus ou moins très, très beau ou très, très laid, ça a toujours été un jeu humain comme ça. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, par exemple, j'hésite pas, justement, à aller trouver chez Velázquez, toute proportion gardée, parce que je pense pas du tout que je sois au niveau de Velázquez, mais par contre, je vais pas hésiter à aller piller chez lui, il a une idée comme ça d'une femme au miroir, bah hop, je vais le piquer avec le jeu de mettre cette femme devant Facebook, quoi. Donc c'est un jeu comme ça très très simple et qui me fait que je suis toujours aux aguets dans la réalité, je cherche toujours des sujets et ça vient vers moi comme ça de façon très naturelle en ayant des espèces de rebondissements entre la peinture et entre des peintures que je connais, ce que j'aime et un sujet, voilà, ça se fait comme ça, c'est une petite...
Et vous, Benjamin Moreau, comment vous explorez musicalement, justement? Je me dis que vous avez peut-être cette notion d'invariant, comme Thomas Lévillan, c'est-à-dire de titres qui auraient justement une vraie durée à l'heure où, justement, il y a un matraquage de choses assez éphémères, au final.
Chaque morceau qu'on choisit avec toute la gentillesse possible, on espère que c'est des morceaux qui sont sur une durée, qui n'ont pas vieilli, en fait. Alors, on a des trucs très populaires aussi, parce qu'on s'autorise, bien sûr, le fait d'avoir des choses très populaires. Mais dans l'ensemble, c'est des choses qu'on... Moi, j'aime beaucoup écouter la Russie des années 30, par exemple. C'est vraiment extraordinaire. Et elles n'ont pas... L'émotion qu'on a en l'écoutant aujourd'hui, je pense, est vraiment intacte. Et c'est ce qui les rend...
C'est quoi un classique chouette. C'est un vieux truc qui n'a pas vieilli, en fait.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est la même... C'est l'artiste qui... Oui, voilà, ouais. Il a réussi à passer le temps.
Ça reste efficace, quoi. Ouais.
Un classique, c'est un vieux truc qui n'a pas vieilli. Je vous propose de tweeter cette phrase, évidemment, tout de suite sur @pingpongculture.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui refuse de vieillir ou qui se croit et se rêve immortelle.
À suivre, deux écritures à l'heure du numérique, l'une est poétique, l'autre musicale, avec nos invités General Electric et Stéphane Bataille. Vous entendez un petit peu Philippe Catherine aussi.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Émilie Chaudet.
Anne, vous pouvez reprendre votre place.
Mais moi je m'en vais, t'es au courant?
Tu ne peux pas partir maintenant sans avoir répété, ça vient de la démence.
Qu'est-ce que tu veux Gérard, faut bien que je bouffe.
Qu'est-ce que c'est que ton truc?
Une connerie.
Alors pourquoi le fais-tu?
Ah et puis merde, t'as qu'à nous payer les répétitions.
Mais avec quoi?
Avec quoi? Non, si t'as pas d'argent, t'as qu'à pas monter de spectacle, puis un autre métier.
Fous-moi le camp.
Je vais bon, c'est ça, bonsoir.
Bonsoir Émilie.
Bonsoir Martin.
Alors Émilie, ce soir on ouvre votre dossier avec, donc on l'entend, la disparition d'un des derniers représentants du cinéma de la nouvelle vague.
Et oui, Jacques Rivette, le cinéaste et ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma de 1963 à 1965 est décédé aujourd'hui à Paris. Il avait 87 ans, ce qu'on vient d'entendre. C'est un extrait du film Paris nous appartient, c'est son tout premier film réalisé en 1958 à tout juste 30 ans. Un film qui préfigure en fait l'ensemble de son œuvre puisqu'il y est question d'une jeune troupe de théâtre qui évolue dans un Paris mystérieux où s'alimentent des rumeurs de complots. Le milieu du théâtre, une certaine idée du mystère, une obsession pour le hasard et surtout l'expérimentation cinématographique, ce sont là des caractéristiques fondamentales de son cinéma, un univers qu'on retrouve d'ailleurs dans un de ses films les plus marquants et aussi les plus longs, Out One Spectre, réalisé en 1974. Un film fleuve de 4h30, très libre adaptation de l'histoire des 13 d'Honoré de Balzac, avec notamment Bulogier, Michael Lonsdale, Jean-Pierre Léo et pour lequel Pierre-William Glenn a travaillé en tant que chef opérateur à l'âge de 27 ans.
Je ne savais pas exactement ce qui allait se faire. Rivette me regardait quand il me disait « on retourne ben ». Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait. Je disais « mais tu veux qu'on fasse quoi précisément ?» Et c'était à moi de trouver. Ça tient beaucoup, mais tout le film tient beaucoup du mystère et de la télépathie qu'il essaye de créer. Je veux dire, dans cette histoire, c'est l'idée, tu vas comprendre ce que je veux sans que je te l'explique, comme des gens de cinéma. Pour lui, le cinéma tenait beaucoup au mystère et aux histoires qui se développent sans un vrai scénario. Le scénario était aménagé au fur et à mesure du jeu des acteurs et de ce qui s'était passé dans les scènes, ce qui est un des côtés géniaux du film. C'est un type qui a vécu sa vie entière sans être préoccupé par l'impact public de ses films. C'est-à-dire, le cinéma d'auteur lui doit à lui essentiellement. Ces films sont toujours des expériences.
Et il appert, Émilie, que Pierre-William Glenn, donc le chef opérateur de Rivette dans Out One Spectre, n'a pas manqué de souligner au téléphone ce que Rivette avait apporté au cinéma expérimental.
Oui, une liberté dans le tournage, le montage, la post-production qui font que ceux qui parlent du cinéma de Jacques Rivette, que ce soit des cinéastes, des acteurs ou des critiques, évoluent très vite vers la longueur de ses films. Il l'évoque très vite ce sujet-là. On l'a dit, 4h30 pour Out One Spectre, qui a donné une version montée pour la télévision de 12h30, intitulée No Limit. On pourrait aussi évoquer L'amour fou en 68 où Céline et Julie font en bateau le film en 74, les deux films qui ont subjugué l'un de ses plus vieux compagnons de route, Barbet Schroeder.
C'est un parcours exemplaire parce que c'était très difficile de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire d'affaire toujours des films qui étaient trop longs et qui avaient toujours beaucoup de mal après à trouver leur public. Mais avec par exemple Céline et Julie, il a trouvé son public pour toujours, c'est-à-dire c'est un film qui a très bien marché à Paris à l'époque, ça a fait plus de 100 000 entrées, et c'était quand même un film de 3h15, et moi je me rappelle que je lui avais dit, mais est-ce que tu penses pas qu'on peut quand même couper un petit peu? Il dit non, si on coupe quelque chose, ça tient plus. Et puis je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, puis j'ai fini par me rendre compte qu'effectivement il avait raison.
Barbet Schroeder, qu'on peut entendre depuis lundi et encore ce soir dans la série d'entretiens menée par Thomas Baumgartner dans l'émission À voix nue à 20h sur France Culture. En tout cas, cette radicalité dans la manière de concevoir son cinéma et de le vivre a pu parfois lui poser problème côté producteur, mais ça ne l'a pas empêché, Jacques Rivette, de tourner avec des acteurs comme Emmanuel Béart, Jeanne Balibar, Michel Piccoli, Sandrine Bonner, Anna Karina et j'en passe, car c'est cette radicalité qui en a fait un maître de cinéma pour les jeunes acteurs ou apprentis cinéastes qui l'ont côtoyé, comme Jean-François Thévenin, qui a fait ses début d'acteur et de régisseur sur Out One Spectre.
Ce qui m'a appris, c'est que ça m'a mis des petites graines. J'ai compris qu'avec une petite équipe, quand on était bien décidé mais qu'on avait très très peu d'argent, et bien on pouvait faire un film. Autrement, j'aurais jamais pensé. Moi, quand j'ai retourné après avec Truffaut, moi j'étais la cinquième roue du carrosse, ou la sixième. Je pensais qu'il fallait vraiment être une grosse vedette avec des films reconnus pour faire des films. Mais de là, cette première collaboration avec Rivette, ça m'a mis une petite graine dans la tête, comme ça. Mais quelques années plus tard, j'ai pu faire mon premier film, sans doute un peu grâce à lui. Dans le Pont du Nord, par exemple, il n'y avait vraiment pas d'argent pour avoir de la lumière. Et ben, Rivette a dit, ça ne fait rien, Bélogier, elle va être phobique, elle sort de prison, elle peut pas rentrer dans un intérieur. Donc on tourne tout dehors, en plein mois de décembre. Pas de lumière. Et c'est devenu le scénario.
Et pour approfondir cet hommage à Jacques Rivette et le passage en revue de son œuvre, sachez d'ores et déjà que la Grande Table consacrera sa première partie à Jacques Rivette lundi à midi, au parcours de ce cinéaste et à sa vie donc.
On passe au bref, Émilie, la série noire continue.
Et oui, elle ne s'arrête pas. Autre décès survenu aujourd'hui, c'est celui de Paul Kantner, le guitariste et cofondateur du groupe de rock de San Francisco Jefferson Airplane, le groupe à qui l'on doit notamment Somebody to Love ou White Rabbit, et qui avait joué sur la scène de Woodstock pendant le Summer of Love de 1969. Paul Kantner avait 74 ans, il est décédé des suites d'une crise cardiaque, et il s'était illustré tout au long de sa vie, non seulement par sa musique, mais aussi par son engagement en faveur de la légalisation des drogues. Il y a encore un an, il avait parlé dans un journal de Floride de ses trips au LSD comme étant les moments les plus formateurs de sa vie.
Un artiste russe, dissident de Vladimir Poutine, soumis à une expertise psychiatrique.
L'artiste et performeur Piotr Pavlensky était en détention provisoire depuis novembre 2015 pour avoir brûlé les portes du siège des services secrets russes. Il devait être jugé le mois prochain pour vandalisme et il a été emmené donc ces derniers jours à l'hôpital de Serbsky, établissement connu sous l'ère soviétique pour avoir gardé certains opposants entre ses murs. D'autres artistes et dissidents politiques disent déjà soupçonner sur les réseaux sociaux une forme d'incarcération avant l'heure.
Arte suspend ses relations avec la télévision publique polonaise.
Les deux chaînes sont liées depuis 15 ans et pourtant Arte a annoncé qu'elle ne coproduirait plus aucun programme avec la TVP tant qu'une nouvelle loi concernant les médias serait en vigueur. Une loi qui soumet la télévision et la radio publique au contrôle de l'exécutif. Une décision qui intervient alors que la chaîne franco-allemande compte lancer à l'automne prochain une série de programmes sous-titrés en polonais.
Merci, Émilie Chaudet.
Ping-pong. La culture sans limite.
C'est un littérateur de la forme brève. Du haïku aux 140 caractères de Twitter en passant par des insta-poèmes et autres poésies virales en QR code. Il s'empare de l'internet avec l'énergie d'un dada pourfendeur de ceux qui estiment que la littérature ne peut pas se partager sur les internets. Il estime que lui, la poésie peut toucher un plus large public même si elle reste toujours marginale. Il a décidé d'en faire d'ailleurs grâce à internet. Stéphane Bataillon, bonsoir.
Bonsoir. À vos côtés, un musicien alchimiste, adepte des surprises parties, comme disait Boris Vian, depuis ses débuts avec le groupe Vert Coquin. Et puis, il y a eu ses faits d'armes avec les explorateurs du hip-hop de San Francisco, Black Alicious, Madlib, DJ Shadow. Et de San Francisco, on le retrouve aujourd'hui à Berlin, au cœur de l'Europe du nouveau millénaire, où il est célèbre, Urbi et Orbi, sous le nom de General Electrix. Lui qui mêle boogie, valse et malentendu, mais aussi quelques cris et chuchotements dans son nouveau disque qui sort justement aujourd'hui, To Be a Stranger, sous le label Vagram. Bonsoir Hervé Salters.
Bonsoir.
Alors, une première question à vous.
Hervé Salters.
Oui, Hervé Salters.
Oui, la résonne, la musique d'introduction, d'ouverture, peut-être le prologue, le prélude de Windows 95. Vous êtes expert, est-ce collage sonore, des morceaux à tiroir, comme vous dites. Vous mitonnez ça avec du vieux matos funk, des vieux synthétiseurs, le clavinet ou le clavinette.
Le clavinette, ouais.
Comme on dit chez les experts. Et puis vous aimez aussi mêler tout cela avec la programmation sur ordinateur et parfois, comme sur ce nouvel album, des cuivres soyeux. Vous évoquez, et vous êtes assis à côté de Thomas Levillan, que ça a quelque chose pour vous de la palette. Il y a de la pastel, du pastel, il y a de la gouache dans vos outils et dans vos couleurs, et même quelques pixels. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un son numérique, et singulièrement, qu'est-ce que To Be a Stranger doit à notre belle époque ?
Un son numérique, juste en général, pour moi, ça évoque le temps présent, quoi. Ça évoque le monde dans lequel je vis actuellement. Maintenant, dans ma musique à moi, effectivement, comme vous l'avez expliqué, c'est pas, en fait, je vais pas directement chercher le son numérique. J'utilise des textures qui sont plutôt anciennes, que je vais tirer de clavier vintage. Donc, soit le clavinet dont vous parliez, ou le Fender Rhodes, ou un synthé analogique comme le SH-101. Et je vais triturer ça, faire passer ça par l'ordinateur ou des effets digitaux, des pédales, et essayer de les emmener un petit peu dans le futur. Donc l'idée, c'est de créer des textures nouvelles qui peuvent terminer digital, mais avec des textures d'antan.
Et les textures d'antan, vous évoquez le nom de ces synthétiseurs, le Rhodes, le clavinet, vous évoquez les pédales d'effet, le wah-wah, le flanger, que sais-je encore. Est-ce qu'il y a des noms sur les sons d'aujourd'hui, ces sons qu'on pourrait dire numériques?
Je suis pas sûr d'avoir suivi, là.
On donne des noms aux outils qui permettent de trafiquer les sons depuis les années 60, 70.
Ah bah,
est-ce qu'il y a, voilà, des outils qui aujourd'hui sont imposés et qui sont devenus des noms communs?
Ah, bah oui. Alors après, il y en a des digitaux comme la Whammy, par exemple, qui est une pédale, en fait, qui sample le signal que vous mettez à l'intérieur et qui vous permet de changer d'octave et de partir de l'octave d'origine du signal et d'aller jusqu'à un octave plus haut. Donc ça peut faire un... Alors, dépendant du signal que vous mettez dedans, si vous êtes en train de jouer, ça peut donner des choses assez folles. Et j'avais utilisé ça d'ailleurs sur un morceau qui s'appelait Tu m'intrigues à l'époque, sur le premier album.
Cliquetis-clic.
Voilà.
On était déjà dans l'internet avec cliquetis-clic.
Oui, effectivement. Oui.
General Electric. Stéphane Bataillon, vous, c'est carrément finalement l'existence même d'internet qui vous a permis de faire de la poésie. Comment vous y êtes mis et comment vous expérimentez aujourd'hui cet espace?
En fait, en 2005, j'avais lu quelque part sur un magazine qu'il y avait un bloc nouveau qui se créait toutes les 5 secondes. Je me suis dit, bon, pourquoi pas moi, sans trop savoir ce que j'allais écrire. Moi, je suis journaliste, donc c'est une forme d'écriture. Mais là, j'avais envie d'écrire autre chose. Et je me suis donné une petite contrainte qui était d'écrire tous les jours. Donc pendant 2 ans, je me suis mis à écrire tous les jours des histoires. Je savais même pas que c'était... Ça s'est transformé en poésie petit à petit. En fait, et c'est vraiment la création de ce blog qui m'a forgé un peu par cet exercice quotidien un peu qui m'a donné la naissance de ce style-là, la poésie.
Et c'est une patte de littérateur finalement que vous avez très bien développée sous tous les supports possibles que peut offrir la vie numérique aujourd'hui, du web.
Au-delà du web, mon idée, c'était d'essayer de faire une poésie très accessible, vraiment qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, mais d'expérimenter toujours des modes de diffusion qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, qui est effectivement un milieu assez confidentiel. Il y a beaucoup de gens qui viennent écouter de la poésie en soirée, dans les festivals. Par contre, il y a relativement peu de lecteurs de poésie surtout contemporaine. Et moi, j'avais envie justement d'essayer de, à côté d'éditions de livres, enfin, que je travaille avec mon éditeur Bruno Doucet, comme vraiment avec le goût de l'objet livre, de diffuser cette poésie par Internet en utilisant et en expérimentant un peu tout ce qui s'offrait à moi, c'est-à-dire Twitter, Instagram, les QR codes, et en prenant un peu comme l'Oulipo les contraintes de ces outils et d'essayer de les subvertir un peu pour essayer de transmettre ces quelques mots-là qui, moi, me semblent les plus proches de l'émotion, et ce que disait tout à l'heure Thomas, c'est-à-dire...
Thomas Lévillane.
Ouais, cette pourquoi on est là, pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on transmet dans cet acte-là de création.
La poésie, c'est particulièrement adapté à l'outil numérique, finalement.
Je trouve que c'est une des formes littéraires les plus adaptées, parce qu'elle est courte, elle peut se dire rapidement... Elle touche au cœur, ou elle touche pas, hein. Mais quand elle résonne, elle résonne tout de suite. Et je trouve que c'est particulièrement bien adapté, que c'est pas du tout les mêmes problématiques que par exemple pour un romancier. Bon, aujourd'hui, les romanciers sont, ce que je comprends tout à fait, assez frileux pour publier des romans sur Internet ou directement en numérique. Il y en a quelques-uns, je pense à François Bon qui fait avec Publi.net un travail remarquable.
Le tiers livre.
Bon, il y a plein de gens qui s'y mettent, mais c'est encore voilà, il y a des paradoxes en poésie, peut-être un peu moins parce que bon, déjà il y a pas trop de
il y a pas de marché du pas... coup.
En tout cas, il y a un marché, il y a pas d'enjeu marchand. C'est la grande force de la poésie, hein, c'est qu'on le fait pas du tout pour faire carrière. Et du coup, voilà, on peut essayer de le diffuser comme ça.
General Electric, on pourrait dire ce que Stéphane Bataillon dit de la poésie et que Thomas Levillain disait de la peinture. On pourrait peut-être dire la même chose des chansons pop, qui sont des formes brèves, qui vont droit au cœur, qui cherchent l'émotion et peut-être l'immortel, ou en tout cas l'intangible, ou ce qui perdure dans notre humaine condition. À l'instant, Stéphane Bataillon parlait du fait qu'il s'est emparé des modes de diffusion numérique pour mieux les subvertir et faire entendre et lire sa poésie. Quand on sait qu'aujourd'hui, Mathilde le rappelait au début de l'émission, YouTube, plateforme vidéo, est devenue la première plateforme, le premier lieu d'écoute de musique au monde, hein, devant les ventes de disques, les vinyles de Jefferson Airplane ou les CD en boîtier cristal des années qui encore aujourd'hui. Comment vous faites avec ce mode de diffusion qui est YouTube et cette façon un peu particulière aux antipodes d'un travail comme celui de Benjamin Moreau avec Radio qui cherche à nous faire entendre vraiment la musique? Comment vous subvertissez ce médium?
À vrai dire, j'y pense pas vraiment, pour être tout à fait honnête. Quand j'entame un nouveau morceau, je pense plus en termes de juste d'où vient l'étincelle qui fait que j'ai envie de partir avec ce truc. Et puis, je l'emmène où j'ai envie de l'emmener musicalement sans me dire sur quel format est-ce que ça va terminer. Et après, j'espère que sur... Je continue personnellement à réfléchir en termes d'album, ce qui est quelque chose de complètement désuet.
De récit d'ailleurs, vous aimez raconter des histoires.
Et avec
des images en tête, puisqu'on est en compagnie d'un peintre, vous avez des images quand vous écrivez de la musique, du son?
Oui, absolument, enfin, ça dépend des morceaux. Ça peut partir d'une image, ça peut partir d'une atmosphère sonore, ça peut partir de plein de choses différentes. Mais donc, juste pour terminer là-dessus, moi j'ai la sensation, en travaillant sur un album, qu'il y a certains morceaux qui vont sortir du lot, qui vont sembler s'adapter plus au nouveau format qu'est l'Internet. Et dans ces cas-là, il faut saisir le bébé et puis essayer de faire quelque chose de correct avec et quelque chose qui va correspondre, quoi. Mais le subvertir, à vrai dire, je réfléchis pas tellement dans ces termes-là.
Twitter est, au fond, l'exact semblable de ce que sont tous les médiums. À chaque fois qu'on a quelque chose qui surgit comme espace de production de sens, il y a toujours quelqu'un qui intervient là-dedans et qui dit « Ah, attention, il y a la doxa, il y a le paradoxe. » Les artistes sont du côté du paradoxe. Ouais, utiliser Twitter contre Twitter pour en faire autre chose, ce pourquoi ça avait été prévu.
Twitter et la twitterature, nous étions en 2011, alors c'est vrai, il faut le savoir, il y a un institut de twitterature comparée qui a été monté à Montréal, l'ITC. La twitterature, c'était donc l'idée que l'outil Twitter et la forme brève, la contrainte des 140 signes, donc comme le haïku, pouvait générer, on va dire, un nouveau genre littéraire. Et on s'aperçoit, Stéphane Bataillon, puisque vous êtes spécialiste, entre autres, de twitterature et de forme brève, que c'est une forme littéraire déjà désuète, 5 ans plus tard, en 2016.
Alors désuète, en tout cas, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été réussi, c'est-à-dire que effectivement, c'est venu de Montréal, hein, avec Jean-Yves Fréchette, qui a vraiment promu cette twitterature, se dire on va prendre Twitter, on va l'utiliser pour ce qui n'est absolument pas destiné à être, c'est-à-dire c'était destiné à transmettre des infos, à raconter sa journée. On va faire un acte de création avec cette ultra contrainte du 140 caractères. Et ça, je pense que il y a eu plein de choses qui se sont faites effectivement en 2010-2011, des concours internationaux, plein de choses.
Il y avait la revue Tweetologie, hein, l'hebdomadaire qui recensait tout ce qu'il y avait d'intéressant en littérature.
On s'est bien amusé, on s'est bien rencontré aussi parce que du coup ça a donné plein d'échanges entre des gens qui faisaient ça. Et dans le milieu enseignant aussi, enfin il y avait plein de choses. Maintenant, ça a duré le temps d'imposer un nouvel usage. Comme les enfants inventent des règles du jeu sur ce qu'on leur donne, il y a eu quelque chose qui s'est créé. Maintenant, c'est un peu, ça s'est pas dilué, mais voilà, ça existe.
Maintenant, vous irez voir le Poetry Code, hein, et on mettra tout ça sur le site internet de Ping Pong.
Et nous sommes comme des enfants, puisqu'à l'instant, Hervé Salters, a.k.a. le général Electrix, vient de quitter la table de ping-pong pour se glisser auprès de son clavier dans la compagnie des flibustiers qui l'accompagnent pour nous interpréter Angle Boogie, premier extrait de son nouvel album To Be a Stranger. We'll be right back.
said was nice. Shoot elbows from your mouth, they can't be negated. Walk into a room, you get pixelated. Killing smiles on faces, lips turn blue.
Le quatrième album sort aujourd'hui. Tout ce qui est au vibraphone, Jesse Chatton à la basse synthé, Jordan Dalrymple. Est-ce que j'arrive bien à lire la liste que Hervé Salters m'a fait? Eric Stavzan à la guitare et Hervé Salters. Donc le général Electrix branché sur secteur avec ce très beau live en direct pour Ping Pong.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en cette journée spéciale numérique, on avait quand même ce fameux clavinet qui a vécu des tas d'heures mémorables et puis notamment le vibraphone. Qui nous fait remonter un petit peu avant la naissance de l'Internet.
Ping pong. C'est déjà fini.
Et c'est un crève-cœur. Merci à tous les quatre et vous êtes même beaucoup plus avec tous les membres de General Electric. Hervé Salters, donc à la tête de votre brigade General Electric, nouvel album, Mathilde disait, To Be a Stranger, à partir d'aujourd'hui dans la réalité in real life et sur les internets sous le label Vagram. Thomas Lévillane, vous, pour avoir un ersatz de votre travail, on peut aller sur votre site internet, mais pour affronter la peinture en face, je crois que c'est le frère de Van Gogh qui disait de près, la peinture ça pue, il faut l'expérimenter. Ce sera à partir de mars, l'une des nombreuses expositions auxquelles vous participez, Drawing After Digital, donc dessiné après le numérique à l'XPO Art Studio à Paris, à partir donc du 17 mars.
Radio, l'application
avec
de Benjamin Moreau.
Mais on dit radio, on dit radio, on dit radio.
Mais c'est de 5 à 25 O, on a acheté tous les O.
Vous avez acheté tous les O, ouais, d'accord. Donc jusqu'à
25.
Benjamin Moreau à la tête d'une autre folle équipée, une horde sauvage également de compilateurs, d'explorateurs, de chasseurs à papillons et de sons. Et donc radio, c'est le site et l'application.
Et il y a une tournée mondiale qui se prépare, hein, je crois, pour rencontrer les vrais gens interplanétaires dans les vrais pays.
Vous serez dans les mêmes festivals que General Electric.
J'espère.
Stéphane Bataillon, vous, on vous retrouve
sur le site stéphanebataillon.com.
En toute simplicité.
Et en librairie.
Et en librairie, bien sûr. IRL aussi, in real life. Le ping-pong est une expérience réelle et virtuelle qui se fait à plusieurs. À la rédaction, Aïssat Wendoy, Hélène Delich et Selena Terré. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir et bravo pour leur travail, Anthony Thomasson et Nicolas Delmas. Je vous rappelle que si vous aimez les sons de Windows 95 ou encore de Modem 56K, vous pouvez aller les sauvegarder sur le site savethesounds.info.
Et si vous aimez le ping-pong, vous pouvez aussi le pratiquer sur le réseau interconnecté, sur ce nouveau site flambant neuf, pétaradant, franceculture.fr, où les émissions sont disponibles après leur diffusion dans la vraie vie et sur les vraies ondes pour toute la vie.
Lundi, dans Ping Pong, on n'aura pas la visite du président iranien, mais celle de la cinéaste iranienne censurée, Sepideh Farsi, ainsi que de la réalisatrice affranchie, Claire Denis. Je vous rappelle aussi qu'à midi lundi, dans la grande table de Caroline Brouille, on reviendra sur l'œuvre de Jacques Rivette, Épitaphe, No Limites Engueré.